Bien, donc je vous ai laissé en plein suspense avec cette guerre qui est maintenant dans l'horizon général des esprits. Mais en même temps, en Syrie, la guerre civile s'intensifie avec en février 1982 le soulèvement des frères musulmans dans la ville de Hama, avec des combats terribles et une répression absolument impitoyable. On estime, autant qu'on peut faire l'estimation pour ce genre d'affaires, que le bilan serait de l'ordre de 15 000 morts en 3 semaines à Hama en février 1982. Dans ce contexte, la Syrie paraît particulièrement affaiblie et donc vulnérable au Liban. À Washington, on spécule même sur un effondrement du régime de Hafez al-Assad. Les événements de Hama se répercutent au Liban Nord. À Tripoli, les milices sunnites s'opposent aux forces pro-syriennes, surtout composées d'Alaouites et soutenues par la force arabe de dissuasion, c'est-à-dire par l'armée syrienne, tandis que les sunnites disposent du soutien des Palestiniens et du mouvement national. Donc on a une situation symétrique à celle du nord, du sud, du Liban sud, où là c'est l'armée syrienne qui se bat contre les palestinos progressistes, tandis qu'au sud c'est Amal qui combat les palestinos progressistes. Alors dans ce climat, les différentes parties, Dieu sait qu'il y en a au Liban, s'échangent entre guillemets des signaux sous forme de voitures piégées, au détriment de la population civile, ce qui marque le pourrissement accéléré de la situation libanaise. Fin février, Philippe Rabib revient dans la région afin d'obtenir le maintien du cessez-le-feu. La priorité absolue est qu'il ne se passe rien avant le 26 avril, date du retrait, ou du 25 avril, selon les textes. Habib ne peut plus garantir à ses interlocuteurs libanais qu'il n'y aura pas d'invasion israélienne. Les attaques se multiplient contre les ambassades arabes et étrangères. Plusieurs ambassades sont fermées, c'est ce qu'on appelle la guerre des ambassades à Beyrouth. Les institutions françaises sont exposées à des attentats répétés qui font plusieurs victimes dans la représentation française au Liban. Enfin, il y a quand même une petite pause dans les événements du Moyen-Orient qui permet à François Mitterrand d'aller enfin en Israël, et du 3 au 5 mars 1982. Il y attache une très grande importance. Il a travaillé soigneusement à son discours à la Knesset, qui doit avoir une portée historique. Il y célèbre les liens d'amitié entre les deux pays et approuve les accords de Camp David, puis donne ensuite sa synthèse en ce qui concerne l'avenir du peuple palestinien. Je cite « Je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment l'OLP, par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle déniera le principal à Israël, qui a le droit d'exister, et les moyens de sa sécurité. Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle des droits des autres à l'existence, le renoncement préalable et mutuel à la guerre directe ou indirecte, étant entendu que chacun retrouvera sa liberté d'agir en cas d'échec. Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens comme pour les autres, peut, le moment venu, signifier un État. La France approuvera ce qui sera dialogue, comme elle observera avec inquiétude toute action unilatérale qui, de part et d'autre, retarderait l'heure de la paix. De même, nul ne peut décider des frontières et des conditions qui, à partir des résolutions de la résolution 242 de l'ONU, s'imposeront aux parties en cause. Ce sera l'affaire des négociateurs et d'eux seuls. Cette déclaration à la fois franche et subtile, qui ne parle pas du Golan, de Jérusalem et de la colonisation, lui attire une réplique cinglante de Begin qui assimile la charte de l'ONP à Mein Kampf d'Hitler. Dans les entretiens politiques, les Israéliens évoquent longuement la situation au Liban Sud, justifiant une opération préventive contre les terroristes. Mitterrand reste impassible. De retour en France, il croit que sa visite a apaisé la tension et évité une invasion du Liban. Du côté arabe, la visite est plutôt mal jugée. La visite condamne la France et l'Europe à une situation de second plan et laisse la région aux mains des États-Unis et de l'Union soviétique. Pendant ce temps, les émissaires des forces libanaises sont arrivés en Israël pour présenter leur plan d'action. Ne connaissant pas le détail des opérations israéliennes, ils proposent que la milice chrétienne participe aux opérations d'encerclement de Beyrouth-Ouest, l'armée libanaise se chargeant ensuite de l'occupation de la ville. Les forces libanaises étendront leur action à l'ensemble du Liban, en particulier le nord, avec le soutien de l'armée libanaise. La prise de pouvoir par Bachir Gemayel se fera dans le respect de la constitution libanaise. L'entente entre les deux parties ne devra pas être rendue publique. Quand la situation sera stabilisée, on pourra commencer les négociations pour un traité de paix. Donc, chacun, en fait, reste sur ses positions. Le texte des forces libanaises va beaucoup moins loin que ce que Sharon attend de Bachir Gemayel. Le mouvement d'opposition au retrait dans le Sinaï s'intensifie avec l'approche de la date fatidique. Beaucoup de ses membres savent qu'ils ne pourront pas l'empêcher, mais plus on le rendra difficile, plus il sera malaisé d'en faire de même dans les autres territoires occupés. Begin et Sharon marquent leur fermeté. On doit respecter les engagements pris et les colons trahissent Israël en divertissant l'armée de ses tâches et en mettant en cause l'Union nationale. Au début de mars, les premières opérations d'évacuation sont menées sans résistance particulière par l'armée israélienne. L'affaire se concentre sur la ville de Yamit. À la fin mars, ses habitants sont partis. Il n'y reste plus que les militants anti-évacuation venus de l'extérieur. On agit de chaque côté avec retenue pour éviter l'irréparable, d'autant plus que fondamentalement, le gouvernement et les colons partagent la même vision du monde. Deux contentieux se précisent avec l'Égypte. Le président Moubarak a accepté le principe de se rendre en visite officielle en Israël, mais refuse que ce soit à Jérusalem, alors que les Israéliens rejettent toute autre solution. L'autre question est plus matérielle. Se basant sur les conditions de la définition de la frontière entre, à l'époque, l'Empire ottoman et l'Égypte, qui faisait aussi partie de l'Empire ottoman, mais occupé par les Britanniques, en 1906-1907, les Israéliens revendiquent la petite enclave de Taba dans la continuité de leur accès à la mer Rouge. Les Égyptiens s'en tiennent à la définition de la frontière internationale telle qu'elle a été définie au moment des mandats. Et là, à cet endroit, à Taba, est installé un hôtel et un centre de vacances. Donc, les Égyptiens exigent un arbitrage international pour régler la question, sachant que le droit est de leur côté. Les Égyptiens sont pratiquement sûrs que l'arbitrage leur donnera satisfaction. Durant les mois de mars, toujours, l'armée iranienne lance une série de contre-offensives qui contraignent les Irakiens a abandonné un certain nombre de positions en territoire iranien. Les revers irakiens inquiètent les pays arabes du Golfe qui renforcent leur solidarité avec l'Irak. Le roi Hussein se fait l'avocat de Saddam Hussein dans les relations internationales. L'Égypte de Moubarak, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Bagdad, exprime son soutien à l'Irak. D'ailleurs, discrètement, l'Égypte vend massivement du matériel de guerre soviétique à l'Irak. Alors, toute cette question, retrait du Sinaï, guerre Irak-Iran, cessez-le-feu au Liban, sont évidemment étroitement entremêlées. D'où aussi question des territoires occupés. Et le mois de mars, le début avril, voit une série de manifestations populaires dans les territoires qui sont durement réprimés par l'armée israélienne. Pendant ce temps, La Jordanie fait de l'appartenance aux Ligues des villages un crime de haute trahison punissable de la peine de mort. Cette décision jordanienne, accompagnée de certains assassinats de collaborateurs d'Israël, provoque l'effondrement du mouvement des Ligues de villages, d'autant plus que dans l'immédiat, la décision jordanienne implique l'interdiction de se rendre en Jordanie pour les intéressés, c'est-à-dire l'enfermement des collaborateurs d'Israël dans les territoires occupés et l'absence d'accès au reste du monde arabe. Alors, les médias internationaux diffusent massivement les images de la répression israélienne en Cisjordanie, qui a pris vraiment une ampleur inaccoutumée, avec plusieurs morts. Et l'affaire est donc à peu près là. Et alors, on voit donc le paradoxe israélien qui essaye d'expliquer qu'à la fois l'OLP n'a aucun soutien dans les territoires occupés et qu'en même temps, les manifestations sont organisées par l'OLP, qui n'a pas d'existence sur place. C'est le fameux problème de la marmite, vous savez. Je ne vous ai jamais emprunté la marmite et quand je te l'ai rendue, elle était intacte. Alors, un sondage d'opinion mené dans cette période par un institut israélien et commandité par l'hebdomadaire Time donne le vrai sentiment de la population de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont tenté d'empêcher la publication de ce sondage. 98% des personnes interrogées veulent un État palestinien, 86% qu'il soit gouverné par l'OLP, 59% qu'il recouvre l'ensemble de la Palestine, 27% seulement la Cisjordanie et la bande de Gaza, 56% veulent un État démocratique et séculier, 35% un État islamique, 82% considèrent que l'Union soviétique est le meilleur ami des Palestiniens contre 5% aux États-Unis. Évidemment, vous pouvez soupçonner que l'image des Israéliens est particulièrement négative dans ce sondage. Le 31 mars, un bureau d'achat du ministère israélien de la Défense est mitraillé à Paris. Les dégâts sont purement matériels. Selon le communiqué de l'ambassade d'Israël, je cite, « Il ne fait aucun doute que cette attaque menée contre une cible israélienne était préméditée et tout semble indiquer que les auteurs de l'attentat sont des terroristes palestiniens. Après les événements sanglants de Judée et de Samarie à l'instigation de l'OLP, cette organisation exporte ses actes d'intimidation à l'extérieur des frontières d'Israël. » Le 3 avril, un diplomate israélien à Paris est assassiné. L'Israël accuse l'OLP que l'attentat est en fait revendiqué par les fractions révolutionnaires armées libanaises, le FRAL, un mouvement issu de la mouvance libanaise du FPLP. C'est ce mouvement qui, dans les milieux des années 80, sera accusé d'une série d'attentats à Paris, pour ceux qui s'en souviennent. Pour Israël, les terroristes fidèles à l'enseignement des nazis qui sont leurs maîtres à penser veulent nous tuer tous et détruire Israël. Mais Israël sait se défendre et se servira de sa force pour écraser le terrorisme, ses chefs, ses bases, ses organisations, là où nous pouvons les atteindre. Le Liban appelle au secours tous ses amis sur la scène internationale. L'affaire tombe d'autant plus mal que la diplomatie mondiale est préoccupé par l'invasion par l'Argentine des îles Malouines, appartenant à la Grande-Bretagne, cette crise débouchant sur une guerre ouverte entre le Royaume-Uni et l'Argentine. Washington ne peut pas se permettre d'avoir à la fois une crise au Moyen-Orient et une autre en Amérique latine, d'où des rappels à l'ordre véhéments envoyés par Washington contre toute action au Liban. De ce fait, l'invasion israélienne, qui aurait pu être, entre guillemets, si on est au conditionnel, programmée pour le 11 avril, est retardée. Pour Arafat, il faut s'abstenir absolument de toute provocation. Il faut laisser les Israéliens attaquer. Si on réussit à tenir une dizaine de jours, on aura le soutien de l'opinion publique internationale et on pourra ouvrir des ambassades palestiniennes à Paris et à Londres. Quant aux Syriens, ils considèrent que s'il y a la guerre, ils combattront, ils impliqueront les Soviétiques. Mais Damas est en même temps très inquiet de la collusion supposée entre les forces libanaises et l'armée israélienne. Le jour de Pâques, un Israélien d'origine américaine, militant du parti extrémiste du rabbin Kahane, ouvre le feu avec un fusil mitrailleur sur les fidèles et les touristes sur l'Haram el-Sherif, l'esplanade des mosquées, puis tire sur le dôme du Roc. Il se laisse ensuite arrêter par la police israélienne. Le bilan est de 2 morts et 9 blessés, graves, d'où une nouvelle vague de troubles dans les territoires occupés. Et répression israélienne, donc de nouveaux morts et veto américain à une résolution au Conseil de sécurité. Selon le raisonnement curieux de la diplomatie américaine, c'est la condamnation des actes plus que les actes eux-mêmes qui exacerbent les passions dans la région. Évidemment, tout ça s'explique par la volonté américaine de tenir jusqu'au 25 avril. Les ultimes entretiens israélo-égyptiens donnent les confirmations nécessaires. Dans la foulée, le gouvernement israélien ordonne le bombardement de positions palestiniennes dans la région de Beyrouth. Le bilan officiel est de 80 morts et blessés. 2 avions syriens sont abattus. La diplomatie internationale se précipite pour que les Palestiniens ne réagissent pas à l'attaque israélienne afin d'éviter de donner le prétexte tant redouté. Et les Palestiniens s'abstiennent à ce moment-là. Sharon fait évacuer par la force les colons de Yamit, puis ordonne de raser toute la ville avant de laisser la place aux Égyptiens, car il n'est pas question de laisser des dizaines de milliers d'Égyptiens s'installer à proximité de la frontière israélienne. Le 25 avril, le retrait israélien est terminé à l'exception de Taba. La ville de Rafah est divisée en deux entre sa partie égyptienne et sa partie palestinienne dans la bande de Gaza. En Israël, le sentiment dominant est celui de la frustration. On reconnaît la nécessité de l'évacuation, mais la paix générale est toujours aussi lointaine du fait même du non-règlement de la question palestinienne. Et on annonce la création de nouvelles colonies dans les territoires occupés. Alors, vers l'inévitable, je peux dire, même si rien n'est inévitable en politique, en mai 82, l'actualité internationale est concentré sur la guerre des Malouines entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Le même mois est marqué de nouvelles défaites irakiennes. L'armée iranienne libère la ville iranienne de Roramshahr. La plus grande partie des gains territoriaux irakiens est annulée. L'Irak paraît à son tour menacé d'invasion. Les États arabes de la région sont particulièrement inquiets. Du côté Égypte-Israël, l'Égypte refuse que les négociations sur l'autonomie aient lieu à Jérusalem en raison du problème du statut de la ville. Du coup, les Israéliens font une condition sine qua non. Au Liban, la dislocation du mouvement national se poursuit. Certains groupes d'obédience, de base d'obédience syrienne, le Parti communiste, le Parti social national syrien, le PSNS, c'est-à-dire l'ancien Parti populaire syrien, le PPS, s'alignent sur Damas, tandis que le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblatt et les milices sunnites prennent leur distance. Amal continue sa guerre contre les pro-irakiens et remet en cause l'hégémonie du mouvement national. À Tripoli, on continue de se battre entre sunnites et alaouites, les Palestiniens combattant du côté des sunnites. La notabilité sunnite s'affranchit du contrôle du mouvement national et veut peser de façon indépendante sur la scène politique, Attentats et assassinats sont quasi quotidiens. Les Français sont particulièrement visés. La population, elle, ne rêve que de la restauration d'un État. En secteur chrétien, les forces libanaises s'interrogent sur les atermoiements israéliens, puisqu'il n'y a plus de message d'Israël. On est toujours dans le « si » et « quand ». If and when, puisque les conversations entre Israéliens et Libanais ont lieu en anglais. L'opposition, enfin Jérusalem, la tension est toujours forte autour du Haram al-Sharif. C'est la même chose dans les territoires occupés où les manifestations ont repris. À la suite d'un attentat à Jérusalem et de la pose de mines dans des secteurs tenus par l'armée israélienne, l'aviation israélienne bombarde le 9 mai des positions palestiniennes entre le Litani et Beyrouth, faisant 11 tués et 40 blessés. Les Palestiniens répliquent en tirant des roquettes Katyusha sur la Galilée. En reprenant la rhétorique israélienne, ce sont des objectifs militaires qui ont été visés. En fait, les Palestiniens ont visé délibérément un espace vide pour ne pas provoquer inutilement une escalade. Israël fait connaître sa nouvelle interprétation du cessez-le-feu. Les Palestiniens doivent cesser toute hostilité et pas seulement à partir du Liban. Il est répété à plusieurs reprises qu'aucune attaque contre un diplomate israélien à l'extérieur ne sera tolérée. L'opposition israélienne rejette toute perspective d'invasion du Liban. Pour les Américains, le cessez-le-feu s'applique à toute action hostile partant du Liban vers Israël et vice-versa, ainsi que toute attaque d'une ou deux parties transitant par la Jordanie, la Syrie, les zones internationales ou les territoires étrangers. On programme une nouvelle mission à Habib pour le début du mois de juin. Le 15 mai, Philippe Habib est reçu par Ronald Reagan. Il explique au président l'extrême fragilité du cessez-le-feu. Selon ce que dit Philippe Habib, un mouvement radical palestinien qui voudrait se débarrasser d'Arafat peut provoquer l'incident qui mettrait Israël en mouvement et le principal gagnant serait l'Union soviétique. Les difficultés parlementaires du gouvernement israélien ont conduit à annuler une invasion du Liban prévue cette fois pour le 17 mai. Et qui, selon Sharon, n'aurait visé que le Liban Sud. Mais ce n'est que partie remise. Le plan de guerre israélien a pris maintenant comme nom code « Paix pour la Galilée ». Il a été présenté par Sharon au gouvernement et approuvé par celui-ci, mais sur la base d'une pénétration de 40 km à l'intérieur du Liban seulement. Sharon jouant sur les mots en disant que cette invasion ne provoquera pas de réaction syrienne. Mais pour qu'il n'y ait pas de réaction syrienne, il faudrait que l'armée syrienne se retire au moment de la progression de l'armée israélienne. Mais ce n'est pas ce qu'il explique exactement au gouvernement. Le 25 mai, deux MiG syriens sont abattus au nord de Beyrouth. L'aviation israélienne a reçu l'ordre d'interdire aux Syriens de perturber ses vols de reconnaissance. Le même jour, alors là, c'est là on va être encore des grandes journées de polémique, enfin des grands sujets de polémique sur la question de Palestine. Qu'est-ce qu'il s'est dit le 25 mai 1982 à Washington? Donc, le 25 mai, Ariel Sharon est à Washington et est reçu par Alexander Haig. Selon le récit d'Alexander Haig dans ses mémoires, Sharon lui aurait exposé deux plans possibles de campagne. Le premier qui aurait conduit à la pacification du Liban Sud et le second qui remanierait la carte politique du Liban au profit des forces libanaises. Sharon est là pour prévenir les États-Unis. Encore une provocation de l'ONP et elle sera détruite. Le secrétaire d'État se serait énergiquement prononcé contre un tel projet. Puis il a reçu en privé Ariel Sharon, puisque la première partie de la réunion était avec les diplomates américains spécialistes du dossier. Et de façon plus claire, Haig aurait dit « À moins d'une provocation internationalement reconnue et d'une opération de représailles proportionnée à la provocation, une attaque israélienne contre le Liban aurait un effet dévastateur sur les États-Unis. Sharon lui aurait répondu que personne n'a le droit de dicter à Israël une décision prise pour la défense de son propre peuple. La version d'Ariel Sharon dans ses mémoires est proche de celle d'Alexander Haig. Il a expliqué qu'il s'agissait d'expulser les terroristes du Liban. Le ton a monté avec Philippe Habib, qui conteste l'interprétation israélienne du cessez-le-feu. Alors voilà ce que dit Sharon dans ses mémoires, je cite, « Je n'étais pas venu chercher à Washington une autorisation américaine pour ce que nous avions décidé de faire, mais bien faire comprendre amicalement aux Américains en tant qu'alliés où nous en étions exactement. » De son côté, Haig m'a clarifié sa position en termes très percutants et lorsque j'ai quitté Washington, il a tenu à donner encore plus de poids à ses propos en adressant une lettre à Begin dans laquelle il nous engageait à nous réfréner complètement. La réponse de Begin pourrait fort bien se résumer sa personnalité. « Monsieur le secrétaire d'État, écrivait-il, celui qui obtiendra mon consentement pour laisser massacrer des Juifs par un ennemi assoiffé de sang n'est pas encore né. » C'était là une réponse fière et intraitable. Donc ça, c'est la version de Sharon dans ses mémoires. La réunion générale a donné lieu à un procès-verbal qui corrobore à peu près les versions de Haig et de Sharon. Haig semblant plutôt alerter Sharon du risque de répercussions internationales plutôt qu'imposer un veto à l'opération israélienne. La réunion à huis clos n'a pas de témoin ni de procès-verbal. Selon le témoignage de Veliotes, qui était donc l'un des diplomates américains, Haig ne savait que deux choses sur le Liban. Beyrouth était le quartier général de l'OLP et il existait des milices chrétiennes alliées à Israël. Le secrétaire d'État avait un fort penchant pour Israël et pensait à de futures élections présidentielles aux États-Unis. Il n'envisageait les affaires du Moyen-Orient que de façon simpliste, militariste, en termes de sécurité. Après la réunion, Haig s'est entretenu avec les deux experts de la région, Veliotes et Draper. Il a sorti une carte du Liban et expliqué avec enthousiasme « Vous voyez, s'ils y vont, leur plan sera de joindre le groupe ici au sud avec les chrétiens qui sont là. » Draper, abandonnant sa réserve habituelle, explose. « Au nom du ciel, monsieur le secrétaire, il y a 1,5 million de musulmans entre eux et au moins 1 million d'entre eux sont chiites. Haig a été complètement éberlué. C'est comme s'il n'en avait jamais entendu parler. » Donc ça, c'est le témoignage de Veliotes. Les chiites, jusque-là, constituaient pour Haig la menace pour les États du Golfe en raison des succès militaires iraniens. C'est à ce moment-là seulement que Haig a fait rédiger l'alerte d'avertissement à Begin, transmise par l'ambassadeur Samuel Lewis. Mais c'était trop tard. Begin et Sharon ont interprété le message comme un feu orange clignotant. Amber en anglais. Exactement comme Rabin en 1966, quand il a donné l'ordre d'attaquer la Syrie, et les Israéliens en juin 1967, lors du lancement de la guerre d'Issyjou. Il y aura abstention formelle des États-Unis, mais non véritable opposition. Draper ne rapporte pas cette scène dans son témoignage, mais insiste sur le fait que l'administration Reagan n'avait pas la volonté politique d'affronter directement Israël après les affaires d'Ozirak, du Golan, des AWACS. Elle ne voulait pas se retrouver dans la situation de Carter. La déclaration de Haig sur une provocation reconnue internationalement et une riposte proportionnée ne veut strictement rien dire et personne n'est capable de l'expliquer et de la commenter. Il n'y a pas de feu vert, mais une absence de réaction énergique qui aurait pu rendre crédible l'opposition américaine. En tout cas, la lettre transmise par Samuel Lewis à Begin le 29 mai n'a aucun effet. Sharon a persuadé Begin que les Américains n'iront pas plus loin que quelques protestations verbales sans mesure effective. Pour Samuel Lewis, dans son témoignage, il aurait fallu un ultimatum du genre d'Eisenhower lors de la crise de Suez pour arrêter Begin et Sharon, et cela était impensable dans le contexte de mai 1982. Toujours est-il qu'il faut maintenant la provocation internationalement reconnue. Donc, c'est là la dernière énigme du dossier. Dans un discours tenu à Chicago le 26 mai, Haig définit les objectifs de la politique américaine au Moyen-Orient, mettre fin à la guerre Irak-Iran, faire progresser les discussions sur l'autonomie. En ce qui concerne le Liban, il marque qu'il est temps d'entreprendre une action concertée afin d'appuyer à la fois l'intégrité territoriale du Liban et un gouvernement fort capable de promouvoir une société libre, ouverte, démocratique et traditionnellement pluraliste. Les termes sont ambigus. Ça peut être la tâche de la mission Habib ou un encouragement à Bachir Gemayel. Au début juin, la guerre des Malouines est en train de s'achever avec une victoire nette et définitive des Britanniques. Donc l'autre dossier international est réglé. Alors le calendrier de l'opération israélienne est conditionné par deux exigences. Une provocation internationalement reconnue et l'échéance présidentielle libanaise. Dans les premières discussions entre forces libanaises et israéliens, il avait été question de procéder à une élection anticipée du successeur d'Elias Sarkis. Ce n'était plus à l'ordre du jour puisque l'invasion a été retardée. Le délai constitutionnel pour pouvoir procéder à l'élection est de 2 mois avant la fin du mandat du président en exercice, c'est-à-dire à partir du 23 juillet 1982. La diplomatie américaine a tenté de persuader Sarkis d'accepter un prolongement de son mandat, mais il a rejeté fermement cette option. Bachir Gemayel est maintenant ouvertement candidat et bloque ainsi la voie à tout autre candidat de compromis. S'il ne se passe rien, le Liban risque de se retrouver sans président. Reste la provocation. La direction de l'ONP a multiplié les consignes interdisant toute action qui pourrait servir de prétexte aux Israéliens. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur israélien à Londres, Shlomo Argov, est victime d'un attentat à la sortie d'une réception diplomatique le 3 juin 1982. Les agresseurs sont aussitôt interceptés par la police britannique. L'enquête montre immédiatement qu'il s'agit d'une cellule du groupe Amoudinal et que l'opération a été très hâtivement montée. Contrairement aux procédures habituelles, aucun préparatif de repérage et d'évasion n'a été fait. C'est une cellule dormante qui a opéré et non une équipe venue de l'étranger, autre violation des règles jusque-là observées par le groupe terroriste. Au domicile de l'organisateur, la police découvre une liste d'objectifs avec repérage à faire, comprenant un jardin d'enfants juifs, le représentant de l'OLP à Londres et surtout des représentations diplomatiques des pays arabes du Golfe. Alors, sur cette affaire, plusieurs thèses s'affrontent. La première est celle d'une action propre d'Abou Nidal voulant provoquer une guerre qui conduirait à la destruction de l'OLP et la mise en place au Liban d'éléments plus radicaux. Le Fatah Conseil révolutionnaire pourrait ainsi s'implanter dans le pays, ce qu'il fera effectivement après 1982. En proclamant à plusieurs reprises qu'une attaque d'une représentation diplomatique israélienne constituerait un casus belli, les autorités israéliennes auraient ainsi souligné l'objectif. La critique de cette thèse repose sur le fait qu'il s'agit d'un pari bien audacieux et qu'en général, Abou Nidal ne lance une opération importante qu'avec un commanditaire qu'il paye préalablement. Les thèses 2 et 3 posent la question du commanditaire de l'attentat. La plus vraisemblable serait que le commanditaire soit l'Irak de Saddam Hussein. Une invasion du Liban constituerait une diversion à la guerre Irak-Iran. Au nom des intérêts du monde musulman, Saddam Hussein pourrait ainsi proposer une sortie honorable de la guerre avec restauration des frontières précédentes, ce qui effectivement se passera durant l'été 1982. L'Iran refusera, mais apparaîtra ainsi comme l'agresseur et le responsable de la poursuite du conflit. L'objection principale est qu'Abu Nidal, à cette date, a pris ses distances avec le régime de Bagdad et s'est rapproché de la Syrie. Il est peu probable que le commanditaire soit la Syrie, qui, comme l'OLP, veillait scrupuleusement à éviter tout ce qui pourrait paraître une provocation. La thèse généralement avancée par les milieux proches de l'OLP fait d'Israël le commanditaire. Elle a pour lui la question du calendrier. Il faut la provocation avant le 23 juillet. L'opération a été lancée après le 25 mai, c'est-à-dire après l'entretien de Washington. Avant, l'instruction de procéder à l'attentat a eu lieu après l'entretien de Washington et pas avant. Mais il paraît impensable qu'on ait alors désigné comme objectif un ambassadeur israélien. Une version atténuée serait que la manipulation allait dans le sens d'une provocation non désignée, une instruction d'ordre général. En même temps que l'opération de Londres, le groupe a aussi préparé une action en territoire israélien à partir du Liban, mais elle n'a pas eu le temps d'avoir lieu. Une variante note qu'à cette date, Abu Nidal est en traitement médical en Pologne et que l'instruction envoyée à Londres aurait été donnée par l'un de ses seconds, que les services de l'OLP accusent régulièrement d'être manipulés par Israël. Tel est l'état du dossier, et il est probable qu'on n'en saura jamais plus sur ce dossier. En tout cas, Ariel Sharon, qui est de séjour en Roumanie, rentre immédiatement en Israël. Le gouvernement israélien ne veut faire aucune distinction entre l'OLP et le groupe Abu Nidal. Le 4 juin, l'aviation israélienne lance une opération majeure contre Beyrouth Ouest en plusieurs vagues successives, faisant au moins 60 morts et 270 blessés, dont de nombreux sauveteurs civils. L'artillerie palestinienne réplique en bombardant la Galilée, faisant un mort et 14 blessés. La provocation internationalement reconnue est maintenant constituée. Donc, sur ce dossier, nous arrêtons, puisque la semaine prochaine, nous verrons la guerre de juin 1982. Donc, les minutes qui me restent, je vais faire une réflexion d'ordre général sur la période juin 67, juin 1982. Je commencerai par une note de Raymond Aron dans le Figaro, de novembre 1974. Depuis quelques mois, un tragique parallèle me hante. La crise de 1929, par l'intermédiaire du national-socialisme et de la guerre, aboutit en même temps qu'à l'Holocauste à des dizaines de millions de morts. Avec la crise de l'économie mondiale et du pétrole, l'antisionisme va fleurir. Que ceux qui rêvent d'une disparition de l'État d'Israël ne se fassent pas d'illusions. Nul ne sait où s'arrêteraient les flammes avec lesquelles se consumerait l'État d'Israël. Donc, novembre 1974. Un peu plus tard, dans son très grand livre, publié en 1976, et qui reprenait ses cours au Collège de France, Raymond Aron, donc c'est Penser la guerre, Clausewitz, tome 2, L'âge planétaire, mais qui reprend les cours de Raymond Aron au Collège de France les années précédentes, ils réfléchissent sur la question de la guerre à l'âge nucléaire et avec la hauteur de vue qu'on lui connaît, Aron fait une analyse rationnelle de la question de Palestine sans dissimuler où elle est ses sympathies. Voilà ce qu'explique Aron. Israël ne peut obtenir par la guerre ce qu'il se donne comme fin ultime, la reconnaissance par ses voisins arabes. La destruction d'une armée arabe n'est qu'un épisode. Dans les mois qui suivent, le pays est réarmé par les soviétiques et dispose de forces plus puissantes. Je cite, « En 1973, les Israéliens découvrirent une vérité aussi vieille que le monde. La défaite est un bon maître d'école, la victoire un filtre enivrant. » Fin de citation. La dissymétrie des situations fait qu'Israël ne peut perdre une guerre, car c'est sa survie qui est en jeu. L'élargissement de son espace pour assurer sa sécurité est une illusion. Les Israéliens éprouvent la contradiction entre leur fin politique et les exigences militaires de leur sécurité. Je cite, « Les États arabes ne leur reconnaîtront jamais un territoire plus vaste que celui de 1967. Si les Israéliens renforcent leur sécurité militaire, ils réduisent les chances de la reconnaissance politique, ou bien une nouvelle bataille, ou bien le retrait, insécurité permanente dans les deux cas. Fin de citation. Les Arabes continuent de disposer du nombre, du temps et de l'espace. Les Israéliens disposent d'une armée plus efficace, mais l'efficacité militaire va dans le sens contraire de la finalité politique. Les réfugiés palestiniens veulent retourner dans leur foyer perdu. Ils ne peuvent les retrouver sans en chasser ceux qui l'occupent aujourd'hui. Ils ont eu recours à la guérilla et les Israéliens ont répondu par la tactique de la dissuasion par représailles. Cette tactique militairement efficace est politiquement contre-productive car elle installe le conflit dans la durée. Or, la durée est le principal ennemi d'Israël. La guérilla palestinienne s'est élargie à l'ensemble du monde tout en obtenant des résultats militaires dérisoires. Le terrorisme des détournements d'avions n'a jamais coupé les relations aériennes entre Israël et le reste du monde, je cite. En fait, il ne garde de rationalité instrumentale que par rapport à une finalité psychologique ou morale. Les Palestiniens témoignent de leur résolution, de leur sacrifice. Ils se délivrent de leur ressentiment par la violence. Ils empêchent le monde de les oublier. Ils le prennent à témoin de leur malheur. Fin de citation. Le terrorisme palestinien et ses alliés et le contre-terrorisme des Israéliens conduisent à une mondialisation de ce que Aaron, selon Clausewitz, reprenant l'expression de Clausewitz, appelle la petite guerre. Je cite, « Le champ de bataille s'étend à l'univers entier et n'importe qui lui sert de cible. La terreur gagne de proche en proche si le terrorisme refuse toute distinction entre l'ennemi et les neutres. » Fin de citation. Les forces armées engagées de deux côtés sont hors de proportion avec les ressources des nations engagées dans le combat. Je cite, « Entre les pays qui s'affrontent et leurs forces armées respectives se manifeste une discordance, ou bien les sociétés ne sont pas contemporaines de la technique de leur armement, ou bien les sociétés portent la charge des forces armées qui exigeraient un produit national plusieurs fois supérieur. L'argent que dépensent les Occidentaux pour acheter du pétrole permet aux États arabes de financer à leur tour l'achat d'armes soviétiques. Israël ne peut soutenir la course aux armements que dans la mesure où les États-Unis les aident. » Fin de citation. Les États arabes appartiennent au tiers-monde, mais non pas Israël. Citation. Du même coup, le sens du combat d'Israël prête à deux interprétations. Libération du peuple hébreu ou avant-poste de l'impérialisme. Fin de citation. Étrangement, la conclusion de Raymond Aron, dans cette grande œuvre consacrée à penser la guerre, revient à cette question, revient à l'objectivité de l'auteur. Je cite, « D'autres hommes vivront demain d'autres passions. Français d'origine juive, comment pourrais-je oublier que la France doit sa libération à la force de ses alliés, Israël à l'existence à ses armes, une chance de survie à sa résolution et à la résolution américaine de combattre si besoin est. Avant de me sentir coupable, j'attends qu'un tribunal décide qui, des Israéliens ou des Palestiniens, revendique à bon droit la terre sacrée pour les trois religions du livre. » Fin de citation. Donc ça c'est Raymond Aron, 1975-1976. Dans les articles du Figaro, dans la même époque, Raymond Aron reconnaissait la nécessité ou plutôt l'inévitabilité de la constitution d'un État palestinien, tout en penchant à l'époque plutôt pour une option jordanienne. 35 ans après, contrairement aux attentes de Raymond Aron, nous vivons plus que jamais les mêmes passions. Au moment où la génération des hommes adultes contemporains du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale est en train de partir, plus que jamais, nous sommes contemporains de ces événements et nous les mettons en relation avec la question de Palestine. Loin de s'apaiser, les passions se sont plutôt exacerbées, mais en même temps, nous comprenons mieux les enjeux. La libération du peuple hébreu, selon l'expression de Raymond Aron, n'est pas incompatible à la réalité de l'existence d'un avant-poste de l'impérialisme. Du fait même que l'acteur israélien dépend du soutien américain pour assurer sa survie, il lui est indispensable de se définir comme un atout stratégique dans la guerre froide et au-delà. Dans toute la période couverte de 1967 à 1982, Israël doit se poser comme indispensable pour abattre le nassérisme et contrer l'expansion soviétique. L'ironie de l'histoire, paradoxe que Raymond Aron aurait aimé ou pour le moins aurait pu souligner, est qu'un tel atout stratégique a pour inconvénient de susciter en permanence de nouveaux ennemis pour Israël et les États-Unis. Israël n'a pas été créé par l'impérialisme pour combattre les Arabes et installer une domination occidentale sur le Moyen-Orient, mais cet acteur est bien un fait colonial dans la région, selon l'expression de Maxime Rodinson. Il l'est pour une double raison. Du fait qu'il est radicalement exogène, il lui faut en permanence pour exister disposer de soutiens extérieurs puissants. Parce qu'il est parti pratiquement de rien, il est prisonnier de la logique de la colonisation de peuplement qui implique un refoulement continu de la population palestinienne et la résistance de cette dernière entraîne la perpétuation du conflit. L'aveu israélien est constitué par l'affirmation qu'un retour des réfugiés palestiniens de 1948 constituerait un suicide pour les Israéliens, c'est-à-dire qu'Israël n'est possible qu'à condition de l'expulsion des Palestiniens puisque personne ne peut croire de bonne foi qu'ils sont partis de leur libre volonté. On est ainsi parti dans un débat stérile sur les droits historiques et sur leur date de péremption. La littérature politique européenne, depuis plusieurs siècles, a été obsédée par la lutte des races, le conflit entre conquérants et conquis qui s'étale à travers les siècles. Cela n'a d'ailleurs pas dissuadé les Européens de s'engager dans les entreprises de colonisation, de peuplement au XIXe siècle. Les conditions de la victoire israélienne de juin 67 n'ont permis qu'un exode limité de la population palestinienne. Israël s'est alors retrouvé dans la situation de vouloir la dot, les territoires, sans la fiancer, la population. C'est une expression de Lévi-Eshkol. Sans vouloir ni pouvoir raisonner sur la logique du sionisme, on a voulu continuer la colonisation des périodes précédentes, alors que même que la composition interne du fait israélien avait changé. Le mouvement travailliste est en voie d'épuisement, en dépit de son hégémonie politique, et les nouveaux colons viendront de plus en plus de la droite nationaliste et religieuse. Ils ont beau jeu de souligner que nier leur légitimité, c'est remettre en cause celle du sionisme lui-même. L'impuissance des gouvernements socialistes est marquée par le refus de choisir et de laisser faire, sans le dire, la colonisation. Le temps des choix vient paradoxalement de la droite israélienne à son arrivée au pouvoir. Elle croit pouvoir céder le Sinaï contre la Cisjordanie et Gaza. Elle l'obtient du point de vue des rapports des forces avec le retrait de l'Égypte du conflit, mais au prix de la perpétuation du conflit et du renvoi à un futur hypothétique d'une vraie paix fondée sur un espoir de réconciliation, car la poursuite de la colonisation interdit toute acceptation arabe de la légitimité d'Israël. La mainmise sur la totalité de la Palestine mandataire, loin de faire disparaître les Palestiniens, les remettent au premier plan. Sur le plan international, ils passent de la catégorie de réfugiés que l'on ne nomme même pas dans la résolution 242 à celle de peuple qui a le droit de disposer d'une patrie. Si la guerre de juin 67 a créé un rapport de force militaire apparemment définitivement favorable aux Israéliens, c'est au prix d'une insécurité permanente. Les pertes en tués et en blessés ont au moins été multipliées par 10, voire plus, par rapport aux premières années 1960, où en apparence la survie de l'État était en jeu. Comme le souligne Aron, la supériorité militaire israélienne n'est assurée en permanence que par l'aide américaine. Les avantages territoriaux acquis ne sont pas vraiment des atouts, mais plutôt des embarras. La question de Palestine est antérieure à la guerre froide et se continuera bien au-delà de la guerre froide. Mais cette guerre froide a permis d'alimenter en armement les belligérants et a créé des conditions de possibilité de la guerre classique. Le paradoxe est que les fournisseurs d'armement ont une vision conservatrice de la situation et ne veulent pas en général de la guerre. Ils sont prisonniers de leurs alliés tout en définissant leur capacité d'influence par celle de l'aide militaire et économique, ce qui est une large illusion. C'est aussi valable dans les rapports entre l'Union soviétique et les pays arabes que dans les rapports entre les États-Unis et Israël. Il faut l'ignorance abyssale de la situation réelle du Moyen-Orient pour qu'un Alexander Haig se laisse embarquer dans le projet mortel d'Ariel Sharon de liquidation militaire des Palestiniens au Liban et de remodelage politique de la région. Rétrospectivement, et contrairement aux fantasmes occidentaux, il n'y a pas eu de politique soviétique d'expansion dans la région. Moscou n'en avait ni les moyens ni la volonté. L'envoi des conseillers militaires en Égypte a pour but de consolider les avantages acquis et leur départ permet la guerre de 1973. La volonté soviétique n'est pas celle de la confrontation directe, mais d'une sorte de restauration du concert des puissances du XIXe siècle qui aurait permis à l'Union soviétique d'affermir sa présence régionale. La diplomatie gaullienne l'a bien compris, alors que la stratégie américaine d'élimination de l'influence soviétique est devenue l'un des grands facteurs de déstabilisation de la région. L'illusion kissingérienne d'une modération contrainte des Arabes est particulièrement dangereuse. Outre la frustration des peuples qui ouvrent la voie à l'islamisme, cette politique débouche nécessairement sur l'impossibilité américaine de procurer ce qui est plus ou moins implicitement promis aux Arabes, le retour aux lignes du 4 juin 1967. Le raisonnement en termes de guerre froide conduit à négliger les autres grandes évolutions contemporaines. L'administration Nixon n'a pas saisi l'interaction entre l'inflation mondiale, les désordres monétaires et l'évolution du cours du pétrole. Jusqu'en 1973, elle n'y voit que le renforcement du gendarme iranien. La rente pétrolière autonomise les acteurs arabes en leur permettant de financer l'effort de guerre dans un moindre rapport de dépendance envers l'Union soviétique, ce qui accroît leur marge de manœuvre. En même temps, elle induit une interdépendance entre producteurs et consommateurs qui rend impossible une guerre du pétrole. La rente crée une paradoxale mondialisation régionale autour de la péninsule arabique dont on commence à observer les effets qu'à partir du milieu des années 1970. Rétrospectivement, la combinaison des chocs pétroliers et des politiques monétaires est l'élément essentiel de cette dernière période de la guerre froide, ce qu'évidemment les contemporains n'avaient pas le moyen de savoir. Les libéraux de l'école aronienne et de façon plus générale les sympathisants de la cause israélienne brocardent en permanence les diplomaties qui sont censées adopter des positions dites pro-arabes pour des raisons bassement mercantiles d'accès au pétrole et aux marchés arabes. Avoir une réelle sympathie pour les peuples arabes leur semble une idée étrange. C'est d'ailleurs en général pour eux valable pour l'ensemble des peuples du tiers-monde. Contradictoirement, ils posent que l'Occident n'a que des intérêts dans cette région du monde et accusent la politique occidentale de mener une politique d'intérêt. Il n'y a jamais eu de politique pro-arabe au sens où elle conduirait implicitement ou explicitement à la suppression de l'État d'Israël ou à la négation de sa légitimité. Les diplomaties qui ont fondé leur vue sur les retours aux lignes du 4 juin 1967 en profitant de l'existence du nouveau mot d'ordre arabe « liquidation des séquelles de l'agression », l'ont toujours fait sur la base d'une reconnaissance mutuelle des acteurs et d'offres de garanties de sécurité. Les diplomates ont fait leur métier en travaillant inlassablement sur le rapprochement entre les formules de non-belligérance et celles d'une paix par traité. Plus les États arabes entrent dans cette voie, plus ils introduisent le facteur palestinien dans l'équation politique. L'évidence s'impose qu'il ne peut y avoir de paix sans les Palestiniens. Cette ligne d'action européenne, mais aussi soviétique, a été un facteur puissant de la pédagogie de la reconnaissance mutuelle, certainement plus que la modération imposée par le bâton israélien, selon la stratégie d'Henry Kissinger. Un Georges Pompidou peut même dire que le but de la politique française est d'éviter un suicide d'Israël dû au maximalisme de ses positions. Le véritable débat s'est situé sur la question essentielle du choix entre un règlement global et une série d'accords séparés et graduels. Le premier pose la difficulté de saisir la totalité des éléments du dossier, d'être fondé sur une coopération des grandes puissances, y compris l'Union soviétique, et d'être plus ou moins explicitement imposé de l'extérieur. Le second choix est en apparence plus facile et devrait conduire à un apaisement progressif des passions. Mais ceci est une apparence. Tout accord séparé implique que les autres parties concernées se trouvent poliment sollicitées de laisser faire et d'oublier pour un certain nombre d'années leurs intérêts essentiels. Comme bien évidemment ils s'y refusent, ils deviennent les méchants de l'affaire et on part rapidement dans une escalade de la violence. Il en résulte la règle générale du processus de paix. Il engendre en permanence de la violence du fait même de l'option gradualiste et séparée. Le règlement politique par la négociation seule comporte en lui-même toutes les contradictions de la situation. Il ne peut transformer en droit les éléments de la force dès que l'on quitte la référence au retour aux lignes du 4 juin 67, en dépit de l'ampleur des faits accomplis. Comme la guerre, la diplomatie ne peut se poursuivre que grâce à l'implication des grandes puissances ou au moins des États-Unis. Camp David aurait pu devenir le texte de référence pour les autres pays arabes, mais à condition que les accords à venir comprennent la même référence au retour des lignes du 4 juin 1967, alors que le gouvernement Begin y a vu le moyen de consolider la mainmise sur la Cisjordanie, Jérusalem, Gaza et le Golan. Du côté israélien, la victoire de juin 1967, aussi écrasante soit-elle, rend impossible une définition territoriale de l'État d'Israël, puisqu'elle était renvoyée à des négociations à venir et à un règlement de paix. Il a bien existé au lendemain de la guerre une possibilité de constituer une paix froide, fondée sur le retour des territoires occupés, l'état de non-belligérance et des garanties internationales fortes. Dès la fin juin 1967, l'annexion de la Jérusalem arabe rend impossible cette solution. Dès lors, l'État d'Israël est condamné à vivre dans une situation d'insécurité permanente, soit à basse intensité pour sa population, soit à haute intensité pour l'État lui-même. La stratégie de la dissuasion militaire est contre-productive par nature. Assurer la sécurité par la sécurité des voisins ne peut que contraindre ces derniers à rechercher et assurer leur propre sécurité par une course aux armements. Le moindre échec militaire se transforme en perte de dissuasion et suscite la nécessité d'une escalade dans la violence pour pouvoir la rétablir. La dissuasion engendre la menace qu'elle est censée réduire. Il ne peut y avoir d'occupation heureuse, quelle que soit l'image de moralité ou de démocratie que l'on a de soi-même. En voulant restaurer un pouvoir de type colonial, on s'installe dans l'anachronisme complet. La création de l'État d'Israël n'a été possible que parce qu'elle a précédé de peu d'années l'émancipation des peuples colonisés. 10 à 15 ans après, il n'y aurait pas eu de majorité des 2/3 à l'Assemblée générale des Nations unies pour accepter une telle création. L'occupation et la colonisation font d'Israël l'objet d'un rejet assez vite unanime de la part des peuples du tiers-monde. Autant la position morale d'Israël était forte en 1967, autant elle est inexorablement destinée à se dégrader les années suivantes. La guerre de 67 met les Palestiniens au premier plan. Elle déclenche un processus par lequel la question de Palestine revient à son fondement. Le conflit israélo-arabe a encore de longues années devant lui, mais dès septembre 1967, les États arabes ont abandonné le programme de libération de Palestine pour celui de liquidation des séquelles de l'agression. Les conditions de leur retrait progressif sont ainsi posées. La force de la résistance palestinienne est sa volonté de témoignage, de démonstration de son existence. Sa faiblesse réside dans son incapacité à dépasser le cadre milicien et d'avoir une réelle capacité militaire. Tout le drame libanais se trouve ainsi posé. La liberté d'action palestinienne, la capacité d'exister de façon autonome, implique de pouvoir être un acteur propre dans les dynamiques interarabes et de disposer d'un sanctuaire politique. Seul le Liban peut le lui permettre au prix de l'effondrement de son État et de sa société. Mais cet effondrement fait du Liban une scène politique où tous les acteurs régionaux, arabes comme israéliens, deviennent des protagonistes. Il semble que Yasser Arafat ait assez rapidement compris que la lutte armée ne pouvait aller au-delà de la volonté d'exister. Sa fonction de président de l'OLP lui permet de devenir un acteur légitime dans le système politique arabe, puis dans le tiers-monde et auprès du bloc socialiste, et finalement pour une partie des États européens. Aucun compétiteur palestinien ne peut avoir une telle position. le prix à payer est celui de la responsabilisation, c'est-à-dire de l'acceptation des formules diplomatiques de compromis politiques. Dès lors, Arafat doit intermoyer entre les radicaux qui l'accusent de trahir la haute armée et les exigences d'abandon sans contrepartie tangible. Il devient un praticien de l'équivoque. 5 juin 67, 4 juin 1982, c'est bien un temps d'une succession de guerres et de violences, montrant encore une fois qu'aucune guerre ne peut mettre fin aux guerres, mais ces 15 années, sont aussi celles du passage progressif du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien, la rançon de la victoire israélienne de juin 1967. Juin 1982 sera la première guerre israélo-palestinienne. Je vous remercie.